Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite France Inter plus d'Albert Camus à l'occasion des 60 ans de sa disparition. Ce soir, gros plan sur le journaliste. À la sortie de la guerre, Albert Camus et Pascal Piat, qui seront respectivement rédacteurs en chef et directeurs de la publication, veulent pérenniser le journal clandestin Combat. Ils embauchent plusieurs journalistes ou écrivains, Roger Grenier, Henri Calais, Alexandre Astruc, et s'installent dans les locaux abandonnés du Pariser Zeitung. Le 21 août 1944, Albert Camus commence son éditorial par « Le combat continue ». Le journal se veut la voix de la France nouvelle et refuse d'être apparenté à une couleur politique. Nous sommes décidés à supprimer la politique pour la remplacer par la morale, affirme Camus dans un de ses premiers éditos. Dans son journal, ses prises de parole seront audacieuses, aussi bien sur la question de l'indépendance de l'Algérie que sur ses rapports avec le Parti communiste français. Le 16 janvier 1984, l'historien Michel Vinocq et la productrice Claude Dominique consacrent leur émission historique Le Passé Singulier à ce journal et à la collaboration journalistique d'Albert Camus. Alors, plus de Camus, soirée humaniste sur France Inter.
En février 1943, c'est un ancien journaliste du Progrès de Lyon, Pascal Piat, qui devient rédacteur en chef de Combat. Et en 1944, Pascal Piat se fait aider par Albert Camus. Camus, à ce moment-là, était déjà l'auteur de L'Étranger, du Mythe de Sisyphe, entre autres livres importants, mais c'était aussi un journaliste qui avait fait ses classes en Algérie, au journal Alger Républicain, en 1938 et en 1939. Ce sont ces deux hommes, principalement, Pascal Piat et Albert Camus, qui incarnèrent Combat lorsque celui-ci, sorti de la clandestinité, donna à penser qu'il allait être un des grands journaux de l'après-guerre, le journal d'une nouvelle république dont tout le programme tenait dans la devise imprimée fièrement sous le titre « De la résistance à la révolution ». Herbert Lottmann, qui a écrit une biographie d'Albert Camus aux éditions du Seuil, raconte.
Pascal Piat, quittant son travail au Mouvement Uni de la Résistance, fut l'un des premiers à arriver dans l'immeuble, sans doute le vendredi 18 juin. Il découvrit dans les bureaux un certain nombre d'uniformes allemands abandonnés là par des fuyards qui préféraient porter des vêtements civils pour s'éclipser. Georges Hatschuler commença à écrire pour Combat alors qu'il participait encore à la libération de Paris dans un groupe armé. Il fut témoin de la reddition du haut commandement allemand dont le quartier général était une banque située à l'angle de l'avenue de l'Opéra et de la rue du 4 septembre. L'équipe de Combat découvrit des caisses de grenades dans les bureaux, sans doute placé là pour protéger le Pariser Zeitung. Henri Coquelin, qui avait collaboré à la publication clandestine de Combat et que Camus avait convoqué rue Réaumur, traîna les caisses jusqu'à la terrasse du dernier étage, prêt à les précipiter sur les tanks allemands s'ils approchaient. On les voyait un peu plus loin dans la rue de l'immeuble. Sachant que la police parisienne qui résistait aux Allemands manquait de munitions, Altschuler les transporta ensuite à l'aide d'un chauffeur jusqu'à la préfecture de police, dans l'île de la Cité, au milieu des tirs allemands. Une autre recrue pour le quotidien Combat se présenta en la personne de Jean Bloch Michel, qui avait servi dans un groupe de renseignement avant de rejoindre le mouvement Combat à Nice en 1942. Il avait été arrêté et torturé par la Gestapo, puis avait écrit des articles dans le Combat clandestin sous le nom de Villette. Lorsqu'il arriva à rue Réaumur, il y avait encore des soldats allemands devant l'entrée principale du journal, de sorte qu'il dut contourner l'immeuble avec ses camarades d'équipe, zigzagant entre les énormes rouleaux de papier qui semblaient tenir lieu de chicanes. Lors de sa première ou de l'une de ses toutes premières visites rue Réaumur, Camus, lui-même, fut pris dans une rafle, alors qu'il avait sur lui la maquette de l'entête du journal, la croix de Lorraine gaulliste en travers du C de Combat, mais il parvint à s'en débarrasser avant d'être fouillé.
Albert Camus, en se joignant à l'équipe que dirige Pascal Piat, se fait alors une très haute idée de la presse. Et sur ce point, tous ceux qui vont collaborer au journal pensent la même chose. Pascal Piat, Albert Olivier, Marcel Gimond, Georges Altschuler, Jean Bloch Michel. Ce qu'ils veulent, c'est une presse libre face aux puissances d'argent. Une presse rénovée, dit Pierre Quilliot, l'éditeur des essais de Camus dans la collection de la Pléiade. Une presse rénovée, délivrée du médiocre souci publicitaire comme de l'obsession du sensationnel. Cette honnêteté, clairement définie dans une série d'articles, vaut à combat une incontestable audience dans les milieux étudiants et intellectuels. Et de fait, quand on voit la brochette d'intellectuels et d'écrivains qui fut de ce combat de la libération, on mesure le niveau et l'ambition du journal. Malraux, Sartre, Aron, Gide, Mounier, Alexandre Astruc, André Breton, Brice Parrain, Julien Gracq, etc. Qui pouvait se vanter de faire mieux ?
Le premier numéro, daté et distribué le 21 août, mais numéroté 4e année numéro 59, en hommage au journal clandestin qui l'avait précédé, tenait sur une page grand format de 39 sur 42 cm, imprimée recto verso. Suivant les plans déjà établis, Combat a été distribué à la criée dans le voisinage, jusqu'à la rue de Rivoli au sud et l'Opéra à l'ouest. Tous les exemplaires disparurent en l'espace d'une heure. Les tout premiers exemplaires furent simplement jetés par les fenêtres aux piétons qui passaient. Créant une pratique qui n'allait plus varier, la première page comportait un éditorial non signé, mais écrit par Camus, qui occupait à l'extrême gauche la première des 8 colonnes. Aujourd'hui, 21 août, au moment où nous paraissons, la libération de Paris s'achève. Après 50 mois d'occupation, de lutte et de sacrifice, Paris renaît au sentiment de la liberté, malgré les coups de feu qui soudain éclatent à un coin de rue. L'éditorialiste déclarait que la liberté devait se conquérir. C'est par la lutte contre l'envahisseur et les traîtres que les forces françaises de l'intérieur rétablissent chez nous la République. La libération de Paris ne constituait qu'une étape vers la libération de la France. Ensuite venait un autre combat, car la France libérée ne devait pas être une France de l'argent. Les alliés rendaient possible la libération de la France, mais c'était aux Français de conquérir leur liberté. Ainsi donc, le combat continue. Sur la même page, un autre texte non signé s'intitulait « De la résistance à la Révolution ». Reprenant la devise du journal telle qu'elle apparaissait chaque jour sous l'entête. Cet éditorial n'a pas été reproduit dans l'édition des œuvres de Camus, et un ami de Camus se souvient seulement qu'il l'avait inspiré. Mais la langue semble clairement être la sienne. Piat y mit certainement la main, car il collabora à plusieurs des premiers éditoriaux attribués à Camus, mais Camus lut. De la résistance à la liberté sur les ondes de Radio Liberté d'une voix dramatique sur fond sonore du chant des partisans. Ce qu'il n'aurait certainement pas fait s'il n'en avait été l'auteur, ou du moins l'auteur principal. Comme pour s'assurer que ce texte serait bien lu, on le reproduisit le lendemain. En voici le début. Il a fallu 5 années de lutte obstinée et silencieuse pour qu'un journal né de l'esprit de résistance, publié sans interruption à travers les dangers de la clandestinité, puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré
de sa honte. Cela ne peut se dire sans émotion. Cette joie bouleversée qu'on commence à lire sur le visage des Parisiens est aussi et plus encore peut-être la nôtre. Mais la tâche des hommes de la résistance n'est pas terminée. Il y a eu le temps de l'épreuve et nous en voyons la fin. Il nous est facile de donner son temps à la joie. Elle prend dans nos cœurs la place que pendant 5 années y a tenue l'espérance. Là aussi, nous serons fidèles. Mais le temps qui vient maintenant est celui de l'effort en commun. La tâche qui nous attend est d'un tel ordre et d'une telle grandeur qu'elle nous contraint de faire taire le cri de notre joie pour réfléchir aux destinées de ce pays pour lequel nous nous sommes tant battus. Au premier jour de sa parution publique, le dessein des hommes de combat est de dire aussi haut et aussi net que possible ce que 5 années d'entêtement et de vérité leur ont appris, ce sur la grandeur et les faiblesses de la France. Ces années n'ont pas été inutiles. Les Français qui y sont entrés par le simple réflexe d'un honneur humilié en sortent avec une science supérieure qui leur fait mettre désormais au-dessus de tout l'intelligence, le courage et la vérité du cœur humain. Et ils savent que ces exigences d'apparence si générale leur créent des obligations quotidiennes sur le plan moral et politique. Pour tout dire, n'ayant en 1940 qu'une foi, ils ont une politique au sens noble du terme en 1944. Ayant commencé par la résistance, ils veulent en finir par la révolution. Nous ne croyons ni au principe tout fait, ni au plan théorique. C'est dans les jours qui viendront, par nos articles successifs comme par nos actes, que nous définirons le contenu de ce mot révolution. Mais pour le moment, il donne son sens à notre goût de l'énergie et de l'honneur, à notre décision d'en finir avec l'esprit de médiocrité et les puissances d'argent, avec un état social où la classe dirigeante a trahi tous ses devoirs et a manqué à la fois d'intelligence et de cœur. Nous voulons réaliser sans délai une vraie démocratie populaire et ouvrière. Dans cette alliance, la démocratie apportera les principes de la liberté et le peuple, la foi et le courage sans lesquels la liberté n'est rien. Nous pensons que toute politique qui se sépare de la classe ouvrière est vaine. La France sera demain ce que sera sa classe ouvrière. Voilà pourquoi nous voulons obtenir immédiatement la mise en œuvre d'une constitution où la liberté et la justice recouvrent toutes leurs garanties. Des réformes de structures profondes sans lesquelles une politique de liberté est une duperie, la destruction impitoyable des trusts et des puissances d'argent, la définition d'une politique étrangère basée sur l'honneur et la fidélité à tous nos alliés sans exception. Dans l'état actuel des choses, cela s'appelle une révolution. Il est probable qu'elle pourra se faire dans l'ordre et dans le calme, mais de toute façon, c'est à ce prix seulement que la France reprendra ce pur visage que nous avons aimé et défendu par-dessus tout. Bien des choses dans ce monde bouleversé ne dépendent plus de nous. Mais notre honneur, notre justice, le bonheur des plus humbles d'entre nous, cela nous appartient en propre. Et c'est par la sauvegarde ou la création de ces valeurs, par la destruction sans faiblesse d'institutions et de clans qui se sont attachés à les nier, par l'esprit révolutionnaire issu de la résistance, que nous donnerons au monde et à nous-mêmes l'image et l'exemple d'une nation sauvée de ses pires erreurs, surgissant de 5 années d'humiliations et de sacrifices, avec le jeune visage de la grandeur retrouvée.
Combat, qui a d'abord été l'organe clandestin d'un mouvement de résistance, est devenu, à la Libération, un des grands quotidiens français. Son tirage est de 185 000 exemplaires en janvier 1945, ce qui le place en 11e position de la presse parisienne. C'est un rang modeste à une époque où l'humanité tire à 325 000 exemplaires. Ce soir, 288 000. France Soir, 265 000. Le Populaire, 235 000. Le Figaro, 230 000. Mais c'est un journal déjà prestigieux. Notons qu'avec ses 185 000 exemplaires, Combat dépasse les 150 000 du monde. Mais il est vrai que celui-ci vient de naître en décembre 1944. Un journal prestigieux donc, dirigé par Pascal Piat et dont l'éditorialiste Albert Camus devient vite célèbre. D'autres écrivains y prêtent leurs plumes, notamment Sartre, Gide, Aron, Malraux, etc. Mais c'est indiscutablement Camus qui, de l'extérieur en tout cas, apparaît incarner ce combat de 1944. 1945. Parmi les grands thèmes traités par Camus, journaliste, nous avons retenu celui sur lequel il parlait non seulement avec son intelligence, mais aussi avec son cœur, je veux dire l'Algérie, puisque Camus y était né en 1913 et y avait vécu jusqu'en 1938. Or, les 8 9 et 10 mai 1945, au moment des fêtes de la victoire sur l'Allemagne, des émeutes éclatent à Sétif et en différents points de Kabylie. La presse française est presque unanimement sévère pour les nationalistes algériens. Toutefois, le 13 mai 1945, le journal Combat commence à publier une grande enquête sur l'Algérie. C'est Albert Camus, lui-même, l'enfant du pays, qui en revient et qui parle. Il a été 3 semaines en Algérie, il veut témoigner car l'ignorance de la métropole à son sujet lui paraît incroyable. La réalité algérienne de 1945, c'est d'abord la réalité de la famine.
La crise apparente dont souffre l'Algérie est d'ordre économique. Alger déjà présente aux visiteurs attentifs des signes non équivoques. Les plus grandes brasseries vous font boire dans des fonds de bouteilles dont on a limé les bords. Les hôtels vous offrent des cintres en fil de fer. Dans leurs vitrines, les magasins démolis par les bombardements ont remplacé le verre par le madrier. Chez les particuliers, il n'est pas rare de voir transporter dans la chambre à coucher l'ampoule qui éclaira le dîner. Crise d'objets manufacturés, sans doute, puisque l'Algérie n'a pas d'industrie, mais surtout crise d'importation et nous allons en mesurer les effets. Ce qu'il faut crier le plus haut possible, c'est que la plus grande partie des habitants d'Algérie connaissent la famine. C'est cela qui explique les graves événements que l'on connaît et c'est à cela qu'il faut porter remède. En arrondissant les chiffres, on peut évaluer à 9 millions le nombre des habitants de l'Algérie. Sur ces 9 millions, il faut compter 8 millions d'arabo-berbères pour 1 million d'Européens. La plus grande partie de la population arabe est répartie à travers l'immense campagne algérienne, dans des douars que la colonisation française a réunis en communes mixtes. La nourriture de base de l'arabe, c'est le grain, de blé ou d'orge, qu'il consomme sous forme de semoule ou de galette. Faute de grain, des millions d'arabes souffrent de la faim.
Et Camus de poursuivre en alignant des chiffres, en expliquant les déséquilibres et de dire « Comprend-on bien ce que cela veut dire ? Comprend-on que dans ce pays où le ciel et la terre invitent au bonheur, des millions d'hommes souffrent de la faim ?» Cependant, l'Algérie souffre non seulement de la sécheresse, du mauvais ravitaillement dû au temps de guerre, elle souffre d'une autre faim et d'une autre soif, celle de la justice. Et c'est pourquoi Camus, dans un autre article, va traiter du malaise politique.
Si grave et si urgente que soit la pénurie économique dont souffre l'Afrique du Nord, elle n'explique pas elle seule la crise politique algérienne. Si nous en avons parlé d'abord, c'est que la faim prime tout. Mais à la vérité, le malaise politique est antérieur à la famine. Et lorsque nous aurons fait ce qu'il faut pour alimenter la population algérienne, il nous restera encore tout à faire. C'est une façon de dire qu'il nous restera à imaginer enfin une politique. Je n'aurai pas la prétention de définir en 2 ou 3 articles une politique nord-africaine. Personne ne m'en saurait gré et la vérité n'y gagnerait pas. Mais la politique algérienne est à ce point déformée par les préjugés et les ignorances que c'est déjà faire beaucoup pour elle, si l'on en présente un tableau objectif par le moyen d'une information vérifiée. C'est ce tableau que je voudrais entreprendre. J'ai lu dans un journal du matin que 80% des Arabes désiraient devenir des citoyens français. Je résumerai au contraire l'état actuel de la politique algérienne en disant qu'ils le désiraient effectivement, mais qu'ils ne le désirent plus. Quand on a longtemps vécu d'une espérance et que cette espérance a été démentie, on s'en détourne et l'on perd jusqu'au désir. C'est ce qui est arrivé avec les indigènes algériens et nous en sommes les premiers responsables. Depuis la conquête, il n'est pas possible de dire que la doctrine française coloniale en Algérie se soit montrée très cohérente. J'épargnerai au lecteur l'historique de ces fluctuations depuis la notion du royaume arabe, cher au Second Empire, jusqu'à celle d'assimilation. C'est cette dernière idée qui, en théorie, a fini par triompher. Depuis 50 ans, le but avoué de la France en Afrique du Nord était d'ouvrir progressivement la citoyenneté française à tous les Arabes. Disons tout de suite que cela est resté théorique. La politique d'assimilation a rencontré, en Algérie même, et principalement auprès des grands colons, une hostilité qui ne s'est jamais démentie. Il existe tout un arsenal d'arguments, dont certains d'apparence convaincante, qui ont suffi jusqu'à présent à immobiliser l'Algérie dans l'état politique où nous l'avons trouvée. Je ne songerai pas à discuter ces arguments, mais il est possible de dire qu'en cette matière, comme en d'autres, il faut un jour choisir. La France devait dire clairement si elle considérait l'Algérie comme une terre conquise dont les sujets, privés de tout droit et gratifiés de quelques devoirs supplémentaires, devaient vivre dans notre dépendance absolue, ou si elle attribuait à ses principes démocratiques une valeur assez universelle pour qu'elle pût les étendre aux populations dont elle avait la charge.
De fait, depuis la première conquête de 1830, l'Algérie n'a jamais trouvé un statut satisfaisant pour tous. Plus que toutes les autres, cette terre coloniale souffre de la contradiction coloniale. L'Algérie, c'est la France, mais les Algériens ne sont pas français. Pour l'heure, les massacres du mois de mai et la répression ont été cruels. Beaucoup de gens sont morts dans les deux communautés. Au moment où l'Europe se réjouissait de la capitulation allemande et de la paix retrouvée. À peine la guerre mondiale achevée, que s'ébauchent ces autres guerres, ces guerres coloniales qui vont empoisonner la 4e République naissante et finalement avoir raison d'elle. Pourtant, Camus, en 1945, ne veut pas désespérer.
Cette crise politique qui dure depuis tant d'années n'a pas disparu par miracle. Elle s'est au contraire durcie et toutes les informations qui viennent d'Algérie laissent penser qu'elle est établie aujourd'hui dans une atmosphère de haine et de défiance qui ne peut rien améliorer. Les massacres de Guelma et de Sétif ont provoqué chez les Français d'Algérie un ressentiment profond et indigné. La répression qui a suivi a développé dans les masses arabes un sentiment de crainte et d'hostilité. Dans ce climat, une action politique qui serait à la fois ferme et démocratique voit diminuer ses chances de succès. Mais ce n'est pas une raison pour en désespérer. Le ministère de l'économie nationale a envisagé des mesures de ravitaillement qui, si elles sont continuées, suffiront à redresser une situation économique désastreuse. Mais le gouvernement doit maintenir et étendre l'ordonnance du 7 mars 1944 et fournir ainsi aux masses arabes la preuve qu'aucun ressentiment n'entravera jamais son désir d'exporter en Algérie le régime démocratique dont jouissent les Français. Mais ce ne sont pas des discours qu'il faut exporter, ce sont des réalisations. Si nous voulons sauver l'Afrique du Nord, nous devons marquer à la face du monde notre résolution d'y faire connaître la France par ses meilleures lois et ses hommes les plus justes. Nous devons marquer cette résolution et quelles que soient les circonstances ou les campagnes de presse, nous devons nous y tenir. Persuadons-nous bien qu'en Afrique du Nord comme ailleurs, on ne sauvera rien de français sans sauver la justice. Ce langage, nous l'avons bien vu, ne plaira pas à tout le monde. Il ne triomphera pas si aisément des préjugés et des aveuglements. Mais nous continuons à penser qu'il est raisonnable et modéré. Le monde aujourd'hui sue la haine de toutes parts. Partout, la violence et la force, les massacres et les clameurs obscurcissent un air que l'on croyait délivré de son poison le plus terrible. Tout ce que nous pouvons faire pour la vérité française et humaine, nous avons à le faire contre la haine. À tout prix, il faut apaiser ces peuples déchirés et tourmentés par de trop longues souffrances. Pour nous, du moins, tâchons de ne rien ajouter aux rancœurs algériennes. C'est la force infinie de la justice et elle seule qui doit nous aider à reconquérir l'Algérie et ses habitants.
Ces extraits d'articles viennent de combats. Ils datent du mois de mai 1945. Les articles en entier ont été reproduits dans le livre d'Albert Camus, Actuel 3, qui a pour sous-titre « Chroniques algériennes » chez Gallimard.
Jack White ressuscite The Raconteurs avec ce titre phare de l'album éponyme Help Me Stranger. Le 30 mai 2019, c'est au tour de Sonia De Villers dans l'Instant M de revenir sur la carrière journalistique de Camus avec Maria Santos-Sens, l'auteur d'Albert Camus, journaliste aux éditions Apogée. Camus fut-il journaliste par défaut? C'est tout de suite dans le NRV La Suite, France Inter+.
L'auteur de L'étranger fut-il journaliste par défaut? Albert Camus, le résistant, l'âme et la charpente de combat. Albert Camus qui, dès ses premiers papiers, mit dans sa pratique une exigence et une radicalité que non seulement il théorisa, mais dont en plus il ne se départit jamais. Reporter à Alger, éditorialiste à L'Express, un livre recense désormais et documente et met en perspective cette somme de presse telle une œuvre à part entière et non face à la littérature comme un champ secondaire. D'autant que l'écrivain accompagna l'ensemble de son travail d'une réflexion déontologique sur le métier, texte en quelque sorte fondateur d'une morale moderne du journalisme.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Maria Santos-Sens, bonjour à vous.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes universitaire, vous êtes docteur en sciences de l'information, vous avez dirigé l'Institut du journalisme de Bordeaux, au sein duquel vous enseignez toujours. D'ailleurs, vous adressez votre introduction aux futurs journalistes. On va voir à quel point ces textes sont extrêmement percutants, ce sont quasiment des coups de poing à chaque fois, ils sont d'une actualité brûlante, on va en parler ensemble. Vous publiez aux éditions Apogée Albert Camus, journaliste, et c'est préfacé par Edoui Plenel. Alors, Albert Camus reçoit le Nobel en 1957. Écoutez cette archive.
sommes ici quelques-uns, des vieux amis de Camus, réunis à Radio Algérie, qui représentons une partie de la jeunesse de Camus. Nous sommes ici très émus parce que nous revoyons maintenant, et nous avons évoqué tout à l'heure, cette figure de tout jeune homme qui déjà s'imposait par une magnifique maîtrise. Il y avait déjà à 20 ans tant de dons en lui, tellement d'autorité, une telle soif de vérité, un tel esprit de fraternité, que tout cela a émergé dans son œuvre.
L'histoire de Camus, journaliste, démarre en Algérie, elle démarre à Alger, il est très jeune, il a 25 ans, il entre à l'Alger républicain, journal qui ne survivra pas très longtemps, hein, à ce moment-là la guerre monte, et qui deviendra le Soir républicain. Et tout est là, finalement, en germe.
Absolument, c'est vrai que c'est son école de journalisme, ouais. Il a jamais passé par une école de journalisme, mais c'est sur l'État qui apprend ses métiers. Il est très jeune, il a juste 25 ans et il a déjà un talent, évidemment, une sensibilité sociale, parce que bon, quand même, il faut pas oublier qu'il avait eu une expérience aussi comme militant au Parti communiste, ouais. Même s'il très éphémère, ouais. Même s'il était exclu. Et il arrive à 25 ans dans cet journal qui était plutôt dans une ligne progressiste, mm-hmm. C'est là mm-hmm. qu'il commence s'exercer d'une manière de reporter ses métiers de journaliste. C'est d'abord, ça. Il est chroniqueur judiciaire et il essaye toujours de mettre en place un journalisme des côtés des victimes. Il essaye toujours d'aller voir ces vrais gens, des gens invisibles et notamment une défense des victimes, des gens, des innocents avec des causes importantes qu'il a défendues dans ses papiers.
Alors, Camus va quitter l'Algérie, il va rejoindre la métropole, il deviendra secrétaire de rédaction à Paris Soir. C'est une expérience relativement brève et pourtant elle est importante parce que Camus est vraiment un homme d'encre et de papier. Camus, c'est un journaliste qui ne méprise pas les rotatives, qui ne méprise pas l'imprimerie, ni les camarades de l'imprimerie. Il aime faire, il aime avoir les mains dedans.
Absolument, il aimait rester au marbre. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il aimait beaucoup l'esprit des camarades.
Au marbre, voilà. Le jargon.
Et cet esprit des camaraderies, oui. qu'on y trouve aussi avec tous ces linotypistes, typographes, tous ces ouvriers du journalisme qui sont là. Et c'est là qu'il sentait vraiment cette plaisir qu'il avait déjà retrouvé également. Au moment qu'il avait participé à plusieurs groupes théâtrales aussi, et même dans l'ambiance du foot, il aimait aussi énormément, il préférait jouer en équipe. Ça, c'était absolument
jouer en équipe. Ouais. Alors, Camus va rejoindre la résistance au tout début de la guerre, et notamment un journal créé en 1941 qui s'appelle Combat. Il faut savoir que pour Camus, écrire puis diriger Combat un peu plus tard, c'est courir le risque d'être arrêté, exécuté par la Gestapo. Quand Combat pourra être librement distribué en août 44, il est tiré à 200 000 exemplaires. C'est immense. Et c'est un journal qui a une incroyable influence à l'époque, Maria Santos.
Absolument. Une influence, pas seulement en France. Il est resté un journal de référence en Europe. D'abord par sa liberté, par ce journalisme libre et incarné, et éloigné de toutes sortes de connivences, des partis politiques, du pouvoir, évidemment. Je crois que dans l'histoire de la presse en France, c'est un modèle unique et un modèle qui reste quand même d'une grande actualité.
Alors, il faut savoir que, évidemment, le journal va être imprimé en zone libre à Lyon, mais que finalement, Camus continue de travailler à Paris pour Gallimard le jour, la nuit pour Combat, qui va rameuter les meilleures plumes de l'époque. Autour de lui, Bataille, Gide, Sartre, Aron, Léris, Bernanos, tous vont écrire dans Combat et on dira plus tard de Combat que ça a été un des journaux français les mieux écrit de notre histoire de la presse.
Absolument. La qualité d'écriture, les tons, l'analyse, la lucidité des papiers, des articles, des éditoriaux, ça reste quand même un modèle de journalisme et un modèle que je pense qui doit nous inspirer encore aujourd'hui.
Alors, il y a beaucoup des engagements de Camus qui vont passer par Combat dans les années d'après-guerre notamment. Camus qui s'oppose finalement à l'épuration radicale que préconisent les communistes. Camus qui est pour la réconciliation, que la justice serve la réconciliation. Et en même temps, dans les éditos et les textes de Combat, on retrouve toute cette réflexion sur le mal, dites-vous dans votre ouvrage. Le mal avec un M majuscule.
C'est vrai qu'il a été modéré modelé par les journalismes. On y trouve dans tous ses éditoriaux à l'époque des combats beaucoup de réflexions qui ont nourri après son œuvre, hein, mm-hmm. ses romans, mm-hmm. ses pièces de théâtre. Mm-hmm. Également, il faut y penser, par exemple, à la série Ni bourreau ni victime, vraiment, dans laquelle il essaye de comprendre, d'analyser aussi les sources du mal et notamment la banalité du mal. Quelque part, il était même précurseur aux réflexions qui ont été plus tard développé
par Hannah Arendt,
Arendt. Aussi, et c'est vraiment d'une lucidité visionnaire aussi de ces côtés vraiment de la barbarie et de la côté de la culpabilité des êtres humains face à cette horreur.
Alors reparlons de l'Algérie, reparlons du colonialisme, parce que c'est l'occasion pour Camus, après la guerre, de retourner en Algérie et de signer des reportages absolument incroyables où là aussi il mêle l'enquête de terrain et l'écriture, l'observation, et il rapporte des histoires et il brosse la misère en Kabylie. Ce sont des textes très durs, ce sont des uppercuts à chaque fois. Et pourtant, Camus se murera dans un silence qui lui a valu beaucoup d'hostilité au moment de la guerre d'Algérie.
Oui, absolument. Il faut savoir aussi qu'un des nouveautés du livre aussi, c'est parler de cet Albert Camus, reporter, même oui. journaliste d'investigation, même si c'était une terminologie qui n'existait pas à l'époque. Il s'est rendu sur les terrains en Kabylie. C'était une région qui était vraiment oubliée, où personne ne l'attendait. C'est là qu'il faut que les journalistes travaillent, puissent rapporter cette réalité des misères. Il a fait une excellente radiographie qui reste effroyable et vraiment très intéressante pour voir à quel point les indigènes ils vivaient dans des conditions complètement indignes d'un être humain. Et cette enquête vraiment du terrain où il a été un véritable journaliste.
Et d'ailleurs, presque... il théorise sa mission. Il dit qu'il n'y aura pas de décision politique sans que l'on sache à Paris ce que l'on vit en Kabylie.
Absolument. Il y a plein de données. Lui, là, il s'est très bien documenté sur les terrains. On peut dire même qu'il y a du data journalisme, oui. dans le sens qu'il essaye de comparer la grille des salaires des ouvriers agricoles et de voir aussi comment il y avait un manque d'infrastructures, manque d'écoles, des problèmes vraiment de santé, les gens ils avaient faim, ils étaient en train de mourir de faim. Tout ça c'était très documenté, très contextualisé, oui. c'est tout
puis
un modèle.
Puis la guerre d'Algérie,
et voilà,
on est après le Nobel.
Absolument, et ça reste quand même, j'y pense, un des reportages vraiment modèle de cette Camus qui essaie de rendre visibles les invisibles et donner la voix aux sans-voix. Une des missions journalistiques de ces Camus qui doit nous inspirer aujourd'hui et nous inviter aux journalistes aussi à se rendre dans ces lieux qui sont un peu oubliés.
Camus, journaliste, voilà des éditos de combat, des textes engagés, des reportages en mission. Et voilà Sartre qui lui répond par lettre ouverte dans sa revue à lui, Les Temps modernes. Il traite Camus d'écrivain à la morale de Croix-Rouge. Je lis un extrait de ce texte, de cette lettre ouverte que vous publiez, Maria Santosens, dans votre ouvrage. Ce texte est terrible, terrible, d'un mépris et d'une violence terrible. Je lis Sartre. Je trouve comme vous que ces camps sont inadmissibles. On parle du goulag, sujet sur lequel se déchirent Sartre et Camus. Et Sartre continue. Mais inadmissible tout autant l'usage que la presse dite bourgeoise en fait chaque jour. Et si vous vous étiez trompé, dit-il à Camus. Et si votre livre témoignait de votre incompétence philosophique, je n'ose vous conseiller de vous reporter à L'être et le néant, qui est le grand livre de Sartre. La lecture vous en paraîtrait inutilement ardue. Vous détestez la difficulté de penser.
Ouf. Absolument, très abdominem, c'est un mépris absolu de l'agrégé vers quelqu'un qui considérait plutôt...
Agrégé et ancien élève de l'école normale supérieure.
Absolument, ouais. Absolument. Et envers un Albert Camus, bon, même s'il était à cette époque déjà avec une certaine notoriété, quand même, il avait ses côtés un peu plus autodidactes. Il n'était pas sorti des grandes écoles non plus.
Quand Sartre parlait de Camus, il disait ce petit voyou d'Alger, très marrant, très truand.
Voilà, il le mettait à sa place de cette manière. Enfin,
condescendance.
Je pense aussi, absolument. C'est vrai que je crois que, et même s'il a été le fondateur des temps modernes, des Libé aussi, quelque part, Sartre, il n'aimait pas vraiment les journalismes. C'était une voie pour transmettre ses idées, sa propagande aussi.
C'est ce que vous pensez, vous, que Sartre a été jusqu'au bout relativement méprisant finalement avec les choses de la presse, tenant en haute estime la philosophie et la littérature, et en basse estime finalement les œuvres les œuvres et les publications d'actualité.
Oh, si, bien sûr. Et aussi, il y a aussi les clivages idéologiques de l'époque. Bien il faut sûr. Rajouter, évidemment, donc Sartre, à cette époque-là, il était obnubilé par l'Union soviétique. Mais... Et donc, à tel point que, bon, cette critique des dénonciations des goulags de la part de Camus, ça l'a dérangé parce qu'il pensait qu'il ne fallait pas l'utiliser comme une arme politique contre l'Union soviétique.
Alors, autre bras de fer par voie de presse interposée, beaucoup plus feutré, beaucoup plus moucheté et en même temps assez élégant et très intéressant, c'est celui d'Albert Camus et de François Mauriac. Alors, Mauriac disait avec beaucoup d'humour, nous nous fournissions réciproquement des sujets d'édito. C'est très joli.
Absolument. C'est vrai qu'ils étaient tous les deux de grands polémistes, deux éditorialistes, l'un d'une, incarné d'une presse plutôt conservatrice, donc Mauriac, au Figaro. Et Camus, c'est délicieux de vraiment lire les différents éditoriaux entre l'un et l'autre. Bon, c'est chacun avec sa manière, son style. D'abord avec cette polémique autour de l'épuration et c'est voilà une invitation aussi à avoir un journalisme vraiment d'une grande qualité.
C'est
aussi
ça, parce
littéraire.
Que Mauriac et Camus ne sont pas d'accord sur la question de l'épuration, justement. Pas d'accord et ils ont du mal à se rejoindre, même si Camus, lui, a changé, finalement, d'idée au sortir de la guerre.
Oui, il a évolué, Camus. C'est vrai qu'au départ, François Mauriac, il était plutôt pour la charité, donc les pardons. Et Camus, il était plutôt avec une point de vue de rendre justice après toutes les atrocités de certains collabos au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin, c'est vrai qu'il y a eu pas mal des abus aussi de la part de certains partis politiques autour de la manière d'appliquer aussi l'épuration. Il a changé, il a évolué et c'est ça aussi la complexité, la lucidité des Camus.
Alors, vous parlez de méta-journalisme à propos d'Albert Camus et c'est absolument passionnant parce que c'est en effet tout un travail journalistique qui s'accompagne d'une réflexion sur le métier de journalisme.
Et c'est vrai que bon, il y a des articles qui ont été malheureusement censurés, c'est manifeste pour un journaliste libre.
Oui.
Il donne vraiment
1939.
Tout à fait et qui a été retrouvé il y a quelques années par une journaliste du Monde, publié par le Monde en 2013. Et cet article vraiment et permet aussi il y a toutes les idées de comment les journalismes et les journalistes ils doivent travailler dans une démocratie, leur mission, comment il faut essayer de mener ces combats pour une indépendance aussi, une indépendance à l'égard de l'argent notamment, donc
mais
c'est une
aussi,
grande
c'est
actualité
incroyable
aujourd'hui.
Incroyable de relire ça aujourd'hui. C'est, il faut quand même rappeler qu'il a préféré voir mourir combat que de renoncer à l'indépendance financière et économique de combat et de laisser un actionnaire rentrer au capital de combat.
C'est vrai que ça, c'était un exemple unique à quel point qu'il n'a pas souhaité avoir des nouveaux actionnaires qui pourraient changer la ligne éditoriale. Donc, dès là, c'était un projet vraiment de journalisme honnête et intègre. Il faut aussi savoir qu'il a toujours défendu l'importance de la liberté de la presse, également face au pouvoir, face à la connivence.
Il ne s'est pas épargné la critique féroce, qu'il pouvait mener à l'encontre de beaucoup, beaucoup de titres et de journalistes. Il ne s'est pas épargné cette critique, c'est-à-dire que, y compris à l'époque combat, il a toujours donné dans l'autocritique.
Absolument. Il pensait que la remise en question, c'était très important, c'est une manière aussi de s'améliorer, d'être exigeant dans cette métier dans lequel il faut chaque jour essayer de se dépasser. Et dans ce sens-là, il nous inspire, il nous invite vraiment à mener un journalisme du terrain, exigeant, et toujours des côtés des victimes, comme on l'a entendu tout à l'heure, un journalisme révolté aussi, si on peut dire.
C'était le NRV France Inter Plus d'Albert Camus, épisode 3, Camus journaliste. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, Camus philosophe, artiste et écrivain. Je vous souhaite le bonsoir.